Enfin, France Inter, France Info, Le Monde des débats se sont associés et, je vous l'annonce, une première édition est prévue pour le début juin de l'ensemble des conférences qui ont déjà été prononcées. Ce soir, je reçois donc Pascal Horry, qui est professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est aussi un des collaborateurs de Radio France, de France Culture, et vous l'avez sans doute souvent entendu dans un temps encore assez récent. Il a publié de nombreux ouvrages, alors je n'en cite quelques-uns. La belle illusion culture et politique sur le signe du Front populaire, 1935-1938, qui a été publié chez Plon en 1994 et qui, je crois, était votre thèse. L'aventure culturelle française en 1997, chez Flammarion, pardon, en 89 chez Flammarion, et un ouvrage qui n'est pas d'histoire culturelle, Les collaborateurs, qui a été publié au Seuil en 1976 et qui a été réédité dans la collection Point Histoire. J'ajouterai que vous êtes le fondateur et le président de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. C'est dire que la création même de cette association n'est qu'une invite à vous écouter encore plus attentivement ce soir.
Merci, chers collègues. Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pour paraphraser l'auteur du manifeste communiste, dont j'ai oublié le nom, un spectre hante l'historiographie contemporaine. Il ne se passe plus guère de semaine sans que ne paraisse en langue française un ouvrage se réclamant, explicitement ou implicitement, de l'histoire culturelle. Nous vivons en un temps où, quand un livre paraît sur la guerre de 14-18, il se présente, et à juste titre, je fais allusion ici à un ouvrage de Stéphane Audouin-Rousseau, comme « Essai d'histoire culturelle ». Dans un temps où, deux générations après les origines intellectuelles de la Révolution française de Daniel Mornet, un ouvrage de 1933 dans mes souvenirs, Roger Chartier peut publier les origines culturelles de la Révolution française, une soixantaine d'années plus tard. L'image du succès est amplifiée par la vogue, en pays anglophone, des cultural studies. On verra plus loin que la perspective de ces dernières ne saurait être confondue avec celle qui s'exprime ici ce soir. Il n'en reste pas moins que la réalité du succès est indéniable. Ce serait d'ailleurs en soi un exercice culturaliste intéressant que de s'attarder à l'interprétation du phénomène lui-même. Certains pourraient alors le rattacher à la visibilité chaque jour plus nette du vocabulaire culturaliste, résultat à mon sens d'un travail conceptuel des sciences sociales déjà bien avancé, mais qui renvoie lui-même, plus en profondeur, à une culturalisation croissante des sociétés occidentales, sur fond de crise des formes traditionnelles du religieux. L'hypothèse de la substitution insensible, mais de longue main, du culturel au cultuel peut bien passer désormais pour un lieu commun, je suis d'accord, rien ne prouve qu'on ne tienne quand même pas là l'une des clés les plus efficaces de la dite interprétation. Et au reste, peu importe, c'est aussi une démarche culturaliste que de ne pas subordonner l'analyse à l'interprétation. En revanche, il m'importe ce soir, dans la mesure où je me suis défini il y a maintenant un quart de siècle, environ, comme œuvrant dans le champ de l'histoire culturelle, à une époque où le terme était des plus rares et des moins assurés, je pense au travail tout à fait solitaire de Maurice Crubelier, auquel je rends hommage toujours, puisque son manuel d'histoire culturelle de la France est paru en 1974, ce qui était quand même tout à fait précoce. Il m'importe de répondre ici à l'apogée apparent du phénomène aux deux critiques qu'on lui adresse communément, celle du simple effet de mode et celle du flou conceptuel. La délégitimation par l'argument de la mode, même mode intellectuelle, n'a sur le fond rien de solide, puisque précisément le regard culturaliste ne considère pas qu'il est superficiel d'entrer dans une logique de mode. La mode ne serait à ce moment-là, à nos yeux, que le nom péjoratif de l'hégémonie. Et c'est un phénomène tout à fait respectable. Mais de toute façon, il est tout aussi loisible d'argumenter sur ce point en prenant en considération la production historienne actuelle qui nous permet de disposer désormais des premiers instruments de synthèse, depuis le manuel universitaire, tel le Guatchel-Loyer, jusqu'au recueil d'essais épistémologiques, Rius-Irinelli, aussi bien que la transmission, depuis les premiers temps de l'historiographie moderne, de toute une généalogie d'auteurs faisant de l'histoire culturelle, comme M. Jourdain, de la prose. Depuis, à mon sens, le Voltaire de l'essai sur les mœurs, jusqu'au Lucien Febvre du Rabelais, en passant par le Michelet de La Sorcière. Mais le test le plus impressionnant réside, à mon sens, dans la bibliographie étonnamment parallèle des grands noms de la recherche historique française récente. Je prendrai trois cas simplement, mais on peut les multiplier. Le médiéviste Georges Duby, le moderniste Emmanuel Leroy-Ladurie, le 19e-iste Alain Corbin, chacun dans sa génération ayant suivi le même cheminement depuis l'inévitable thèse d'histoire économique et sociale régionale, qui était ce qu'il fallait faire à une certaine époque, jusqu'aux terres presque vierges, respectivement, de l'imaginaire de la féodalité, du carnaval de Romans ou du miasme et la jonquille. Quant à l'argument du flou conceptuel, bien, c'est tout ce qui va suivre ce soir qui constituera, je l'espère, sa réfutation. Je précise, pour terminer cette introduction, que contemporanéiste moi-même, comme par exemple Alain Corbin, et travaillant principalement sur la France, j'emprunterai en priorité ce double chemin, dans les quelques références que je pourrais faire ici et là, peu nombreuses. Mais il me semble que le propos que j'avance est tout à fait généralisable, applicable à l'ensemble du champ historique. Je crois qu'il faut le préciser en commençant. En commençant par les définitions. Posons d'emblée la définition dont tout le reste découle, celle, il faut le reconnaître, souvent différée, voire diluée, de la culture. C'est bien sûr ma définition qui n'engage que moi. Évidemment, vous pourrez me lyncher après. Au contraire de beaucoup de bons esprits ou de bons apôtres, je pense qu'il est tout à fait possible de donner des contours précis à ce substantif, il faut dire, intimidant. Contour précis ne signifie pas nécessairement contour restreint, puisqu'on propose de regrouper dans cette notion l'ensemble des représentations collectives propres à une société. Vous voyez que c'est ambitieux. Chacun de ces mots mériterait d'être glosé, à commencer par le premier d'ailleurs, ensemble après tout, mais on aura déjà compris que le concept essentiel est celui de représentation, y compris dans ce qu'il implique d'un rapport, éventuellement dialectique, oui, pourquoi pas, entre un donné, peut-être moins physique que sensuel, dirais-je, et sa diffraction. Le terme presque trivial de « forme d'expression » rendrait en fait assez bien compte de ce qui se joue ici, sans qu'il soit au reste aucunement besoin de postuler qu'il s'exprime quoi que ce soit. Le contenu supposé peut être totalement absorbé par la forme, cette sorte de présence de la représentation, qui à la limite se suffit à elle-même. Mais représentation, il y a. Voilà. À cette lumière, l'histoire culturelle apparaît comme une modalité d'histoire sociale. Et, en un mot, ou plutôt en quatre, comme l'histoire sociale des représentations. On tient là tout ce qui va la distinguer des histoires que je me permets de qualifier de qualitatives, sans jugement de valeur, hein. Histoires qualitatives, avec lesquelles certains observateurs continuent, d'ailleurs, à la confondre. Voilà pourquoi j'insiste. Ces histoires des arts, des sciences ou des idées ont longtemps seul occupé le champ défini, à leur époque, triomphante, disons, comme dévolu à la culture. Alors qu'en fait, sous sa forme originelle, leur détermination intellectuelle est à l'opposé de la démarche culturaliste. Les voici en effet fondées sur le jugement de valeur. Remontons la généalogie, le beau avec un B majuscule pour l'histoire des arts, le vrai avec un V majuscule pour l'histoire des sciences, le bien aussi, il ne faut pas l'oublier, avec un B majuscule pour l'histoire des idées. Et d'autre part, attaché à la recherche prioritaire de la singularité. Alors, sans doute, je réponds à l'avance à certaines objections que je suppose dans l'assistance, sans doute s'agit-il de l'état ancien de ces disciplines. Mais à ce stade de la démonstration, peu importe. Outre que la propension monographique conduisant à faire de ces histoires une longue théorie d'individualité créatrice, est loin d'avoir disparu de ces parages, la place croissante accordée au seuil, pour emprunter une terminologie à Gérard Genette, par rapport à la maison, si vous voulez, proprement dite, est surtout la preuve que l'une des bonnes façons de faire de l'histoire culturelle, c'est de faire, par exemple, de l'histoire des arts comme Gérard Monnier, de faire de l'histoire des sciences comme Dominique Pestre, ou de faire de l'histoire des idées, sans doute, comme Régis Debray. Pour moi, c'est faire de l'histoire culturelle. Ce double attachement aux dimensions à la fois collectives et environnementales des phénomènes justifie, en tous les cas, à son tour, un triple primat, conféré au mesurable, au médiatique, et cela va de soi, au social, ou plus exactement au sociable. Car il faut aussi, ici, s'entendre sur les termes. Ainsi, le mesurable ne sera-t-il pas synonyme de quantifiable ? On est bien d'accord. Pour au moins deux bons motifs. Premièrement, que tout en matière culturelle n'est pas quantifié. Deuxièmement, qu'au reste, tout n'y est point nécessairement quantifiable. Ce n'est en revanche pas une raison pour faire sortir du cadre de l'épure la question des proportions, sans laquelle la prise en compte des hégémonies, citais tout à l'heure ce mot, des rapports de force, serait impossible. Il est plus évident encore que l'histoire culturelle privilégiera la médiation, c'est-à-dire qu'elle sera une histoire de la circulation, de la mise en relation des objets représentatifs, tout comme elle privilégiera les configurations du groupe sur l'essence supposée de telle ou telle activité sociale. Reste que sur ce dernier point, il aura fallu attendre le dernier quart du XXe siècle, siècle dernier ou quasiment, pour voir apparaître une histoire non plus de la physique, mais des physiciens, je fais allusion à Dominique Pestre par exemple, une histoire des physiciens, c'est tout à fait autre chose qu'une histoire de la physique. Et une histoire des physiciens, c'est une histoire culturelle. Non plus une histoire de la presse, mais une histoire des journalistes. Non plus une histoire de la bande dessinée, mais de ses censeurs, etc. La brutalité, bon, à vrai dire, relative, quand même, très académique du propos, nécessite qu'on réponde, que je réponde à ce point de l'argumentation, à trois types d'objections venues en droite ligne des histoires qualitatives. Juste. La première objection portera sur le caractère, en dernière analyse, personnel, à défaut d'être, à proprement parler, individuel, de la représentation, assortie du soupçon d'un mauvais parti fait au sujet. On n'a pas intérêt actuellement à faire un mauvais parti au sujet, c'est très mal vu. Donc je m'en garde bien. Il serait facile d'y répondre de manière un tantinet polémique en rappelant qu'on se heurte là aux limites de toute science, intrinsèquement généralisatrice. Sauf à supposer qu'on veuille atteindre à l'idéal de la pataphysique, je vous signale que cette nuit, le collège de pataphysique s'est désocculté à la 25e heure sidérale. Ça tombe pile. La pataphysique, comme vous le savez, est la géniale science du singulier. Mais sauf à faire de la pataphysique, ce que je n'essaye pas de faire ce soir, bien, il faut bien reconnaître qu'on est devant la porie classique. Il suffira sans doute de rappeler que tout est affaire d'accentuation et que l'accent, en effet, est mis ici sur l'adaptation, la modulation. Au reste, il est facile de retourner la proposition et de mettre en avant le poids sur chaque individu des déterminismes et des modélisations qui font que chaque biographie est d'une certaine façon, pour moi, le champ plus ou moins clos, pas forcément le champ clos, mais le champ d'une expérience, peut-être d'une expérimentation, en tout cas d'une expérience, à coup sûr singulière, mais à coup sûr reproduite. Je dirais pas reproductible, mais reproduite. Donc singulière, mais reproduite. Du collectif, expérience de quoi ? Du collectif sur l'individu. Deuxième objection, l'objection du rôle joué par l'irréductible. Guère plus recevable, à mon sens. L'avantage accordé à la représentation reflet n'exclut aucunement l'intérêt en creux de la représentation rupture, porteuse ici d'exceptionnel, là de décalé. Le scandale, qui est la pierre d'achoppement, si vous voulez, le scandale n'a pas, aux yeux du culturaliste, le caractère crucial, pour ne pas dire sacré, qu'il a occupé dans la vieille histoire, celle des anecdoticiens et des surréalistes réunis. De ce que Fromental à Lévis, alors qui se rappelle de Fromental à Lévis ? J'ai bien Fromental, pas Ludovic. Est plus immédiatement utile que Lautréamont à la compréhension de son époque, parce qu'il vivait à peu près au même moment. On a du mal à l'imaginer quand on les connaît, mais c'est vrai. On n'en infère pas que, par exemple, l'Olympia de Manet ne nous dit pas aussi beaucoup, preuve par l'absurde, sur ses valeurs dominantes. Mais j'aurais une faiblesse pour Fromental à Lévis. Voilà. Et puis on est moins concurrencé que sur l'Olympia de Manet, de toute façon. On accordera plus de crédit à l'objection de l'autonomie, troisième objection, de la vie des formes, pour reprendre la belle formule d'Henri Faucillon. On touche en effet ici au fonctionnement le plus intime du système de la représentation, au travers des traditions formelles qu'il met en jeu. La peinture d'histoire, par exemple, ou le cinéma hollywoodien classique, avaient leurs règles, écrites ou non écrites, peu importe, que la production courante ne violera jamais. Si elle est la production courante, elle ne viole pas les règles du cinéma hollywoodien classique ou de la peinture d'histoire. Autant le savoir d'emblée. S'il maîtrisait mieux la connaissance des styles, des rhétoriques propres au système de représentation étudié, entre les poncifs et les règles des genres, entre guillemets, l'historien du culturel s'interdirait bien des déboires, éviterait bien des naïvetés interprétatives et quelques erreurs flagrantes. Voilà pour la ou les définitions. Maintenant, le corpus. De tout ce qui précède découle, me semble-t-il, sinon une nature, du moins un statut du document, statut particulier au questionnement culturaliste, et qui se construit dans une large mesure à contrario du statut classique. Je pourrais le résumer en deux formules lapidaires. Premièrement, tout est source. Deuxièmement, tout est public. La première proposition ne signifie nullement que la collecte n'a aucune borne. Elle vaut surtout comme récusation de la primauté traditionnelle de l'archive publique et du document écrit, d'autre part, alors que le circuit représentatif privilégie les documents destinés à la diffusion, périodique ou non, et s'appuie pour le moins autant sur l'image, l'image en deux dimensions, en trois dimensions, en quatre dimensions, que sur le verbe. Et c'est de la même façon contre le culte du document retenu que s'éclaire la publicité que je postule du document culturel, qui est en quelque sorte par destination, à de rares exceptions près, que je connais bien sûr, situées entre journaux intimes et livres de raison, qui donc par destination fait l'objet d'un affichage dans l'espace public. Cela ne veut pas dire que la mise à jour des tenants occultes d'une production, dont l'aboutissant est un bien symbolique qu'on étudie, soit sans intérêt. Connaître, par exemple, les fondements financiers ou politiques cachés de telle ou telle opération culturelle permet assurément d'en estimer l'intentionnalité. J'aurais presque des anecdotes à raconter là-dessus. Mais reste qu'il y aura toujours une certaine naïveté à croire que la vérité d'un objet est dans son secret. Laissons de côté la vérité, elle a fait assez de mal en histoire, grand H, peut-être petit H aussi. Contentons-nous de son identité, elle est pour moi toute dans l'extériorité. Concédons cependant qu'on ne tient pas encore là la caractéristique la plus remarquable du document culturel. Celle-ci gît, me semble-t-il, principalement dans le privilège que ce type de regard accorde ici au majoritaire, là au massif. D'où l'intérêt qu'il porte aux objets de grande dimension, et mais surtout de grande diffusion. Étant entendu que leur caractère culturel peut être, selon les cas, explicite ou implicite. Sur ce dernier point, explicite ou implicite, ce sera toute la différence qui séparera, par exemple, la carte postale du timbre-poste qui a franchi la carte postale. La fonctionnalité de la première, la carte postale, est faible. Celle du second, le timbre-poste, est forte, mais l'important, c'est que l'un et l'autre sont des documents dont la charge culturelle est considérable. Je voyais que la ville de Paris vient d'inaugurer, je crois, une exposition sur les billets de banque, c'est tout à fait ça. Contrairement à ce que l'on a longtemps postulé, évidemment, dans l'historiographie classique. On aurait cependant tort de rabattre les critères de sélection du corpus culturel sur cette seule dimension quantitative. La préoccupation la plus lourde sera celle de la représentativité du document ou du champ qui conduit le culturaliste à se porter en priorité vers les arts et les genres dits populaires, vers la culture dite de masse, deux épithètes dont on devine déjà qu'elles ne sont pas synonymes, ça va de soi. Mais ceci est une autre affaire. Vers aussi les vulgates intellectuelles. Prenons à titre d'exemple le mode d'approche monographique. Eh bien, on voit qu'il s'agira ici d'accorder enfin un peu de crédit à tous ces auteurs, à toutes ces œuvres, à tous ces médiateurs à succès qui s'appelle, pour prendre les trois exemples dans un champ homogène, pour me faire bien comprendre, Marcel Pagnol, le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, ou Maurice Chevalier. À quand la grande thèse d'histoire sur Maurice Chevalier ? Bon. J'éprouverai toujours un certain plaisir, c'est une formule que j'ai déjà utilisée ailleurs, à rappeler qu'une culture va de Goya à Chantal Goya. Le jugement de valeur personnelle du chercheur n'ayant évidemment et par ailleurs rien à voir en la matière. En bonne règle scientifique, tout en fait sera dans la méthode d'analyse des dix documents et dans les trois précautions que le choix épistémologique initial rend nécessaire. La première prudence est liée presque mécaniquement, mais encore faut-il l'assumer, au choix du collectif. Elle met en valeur les indicateurs culturels comme sinon des preuves décisives. On n'aura pas cette naïveté dite, d'ailleurs faussement positiviste. Du moins comme pilier d'une démonstration. Je cite en vrac, chiffre de tirage ou de vente, cote d'œuvre d'art, ça c'est coton, hein, reconstituer l'évolution des cotes d'œuvre d'art, surface occupée dans un média, effectif d'une association, enquête, sondage, etc. À cet égard, rien de nouveau sous le soleil, à cet égard, le petit scandale qu'avait suscité en son temps la sociologie religieuse de Gabriel Le Bras, scandale qui était fondé sur une confusion entre mathématisation de la foi et mesure de la pratique, parce que le brave Gabriel Le Bras, qui était un bon catholique breton, a toujours dit qu'il ne cherchait pas à mathématiser la foi, mais à mesurer la pratique. Eh bien, ce scandale renaît aujourd'hui périodiquement. Notons au passage qu'en raison de l'existence en ce pays d'une administration culturelle ancienne et ambitieuse, la France met à la disposition du chercheur un arsenal sophistiqué de statistiques culturelles récentes qui a servi de modèle à l'étranger et peut aussi, dans certains cas, bon, assez limité, mais dans certains cas, inspirer la reconstitution d'un arsenal statistique ancien. Notons aussi qu'à défaut d'atteindre une continuité sérielle, la démarche culturaliste participera plutôt d'une logique de l'échantillonnage contre les histoires plus traditionnelles de l'écrémage. La seconde précaution tiendra, elle, au choix environnemental. Elle sera tout entière dans la mise en situation du document. Comme aimait à le dire la culture 68arde, la mienne, voyez mon âge, le lieu d'où on parle antécède, voire prédomine sur ce qui est dit. Et comme on n'a pas manqué de le prouver au sein de toute une tradition sémiologique, il importe de même de constamment distinguer plusieurs niveaux de lecture, je dirais pas une infinité bien sûr, mais plusieurs niveaux de lecture depuis la mise à plat du signifiant jusqu'aux multiples formes de l'interprétatif, qu'il soit d'ailleurs contemporain ou rétrospectif, car il y a plusieurs niveaux d'interprétatif. Une dernière précaution rappellera en permanence, à rebours d'une conception héroïque de la culture, où tout est dans l'émergence, dans l'innovation, qu'inventer, dont il faut retrouver ici l'étymologie de la trouvaille, hein, inventer, c'est pas au CNAM qu'on l'apprend, n'est rien en soi et tout dans les autres. Une part non négligeable de l'énergie des chercheurs peut alors se porter sur l'étude de la diffusion, dans le temps comme dans l'espace. Et on commence, par exemple, à peine, depuis quelques années quand même, mais à peine pour moi, à s'intéresser à l'histoire de la vulgarisation scientifique. Hein, l'histoire de la vulgarisation scientifique, tout à fait passionnante. Outre l'élargissement du champ de la curiosité, qui est quand même assez agréable, assez excitant, qui inclut dès lors tout autant les échecs ou les impasses que les coups de génie, parce que cet élargissement du champ fait que désormais, dans une histoire culturelle des sciences, on s'intéresse au rayon N, hein, des années 1910, et pas simplement au rayon X. Parce que si la science n'était faite que de coups de génie, quelle tristesse. Bon. Mais que de ratage, que d'autosuggestion. Bon. Vive les rayons N, ça c'est intéressant, les rayons N, de la faculté de Nancy, M. Blondelot. Donc on apprendra ainsi à tenir compte des décalages socio-temporels entre le stade de l'élaboration, au sein duquel il peut être utile au reste de distinguer entre, je joue un peu sur les mots, la découverte scientifique et l'invention technique. Celui de la publication après l'élaboration, proprement dite, fondée sur la mise en circulation au travers d'un public. Enfin, celui de la popularisation, où l'innovation pénètre dans les profondeurs d'une société. Il peut se passer des années, voire des siècles, entre ces différents stades, c'est bien évident. L'innovation en question ne doit pas être entendue dans un sens étroitement technique, ça va de soi. Même si, par exemple, vous avez de très belles démonstrations de ce type de diachronie. Je pense au passage insensible, mais quand même assez long, de la TSF à la radio, qui est un très bel exercice culturaliste en soi. Une très belle démonstration de ce glissement de l'élaboration à la publication et à la popularisation. Et selon que vous parlez de la TSF de 1920 ou de la radio de 1935, vous ne parlez plus du tout du même objet, compte tenu de son inscription dans la société, qui n'est pas du tout le même dans la France ou même les États-Unis de 1920 ou 22, et dans la France ou l'Allemagne de 1938, Munich, par exemple. Bon. Il peut s'agir ici tout autant d'un nouveau système de forme esthétique, hein, ou de forme intellectuelle. Et donc cette circulation, elle peut concerner, par exemple, l'histoire de la diffusion de l'abstraction en peinture, du brechtisme au théâtre, du yoga ou de la nouvelle cuisine. Enfin, troisième point, le champ. Le plus vaste, évidemment. À la lumière de ce qui précède, on voit sans doute mieux l'étendue, en même temps que les limites du champ ouvert au questionnement culturaliste. On se contentera d'en donner ici la figure générale, l'histoire étant, à notre sens, à l'instar de la guerre de Napoléon, un art simple et tout d'exécution. Dans le même souci de simplicité, il est tout à fait possible de réunir les approches de l'histoire culturelle autour de trois types, et trois seulement. Bien entendu, ces trois approches peuvent se recouper et se combiner. Il n'en reste pas moins que les modes de l'approche doivent être séparés, chacun des trois générant un mode de recherche spécifique, évidemment. Je propose donc de distinguer une approche factorielle, une approche pratique et une approche formelle. La première mettra en avant le poids d'un triple déterminisme sur ce qui apparaît alors plus que jamais comme un système d'un genre spécifique, le système culturel. Facteurs techniques d'abord, qui s'originent eux-mêmes dans un substrat scientifique, ça je veux bien l'admettre. Facteurs économiques et sociaux. Facteurs politiques, enfin, ceux auxquels on pense souvent d'emblée et qui sont loin, je me permets de le dire, qui sont loin d'être les plus importants. La culture, en effet, j'irais jusqu'à dire que, ouvrez les guillemets, c'est d'abord une affaire de technique. Fermez les guillemets. Effet, donc dans les facteurs techniques, effet induit, comme dans le cas par exemple de la fée électricité, d'ailleurs un beau thème en soi, la fée électricité. Exemple, a-t-elle, cette fée électricité, comme on l'a parfois avancé, un vaste débat mais très intéressant, au théâtre, inventé le metteur en scène, au sens moderne du terme. Vous savez qu'on a développé cette thèse, qu'on ne peut pas parler de metteur en scène tant qu'il n'y a pas électricité. Je simplifie, mais le débat est ouvert. Effet induit, effet direct, surtout, qu'il s'agisse de matériaux, la révolution culturelle des matières plastiques au sens large, et bien d'autres, qu'il s'agisse de dispositifs de production. Bon, la musique est incompréhensible dans son évolution sans l'histoire de la facture instrumentale et des révolutions de la facture instrumentale. Ou bien entendu, bon, ça va de soi, dispositifs de diffusion, et à ce moment-là, qu'on assimile ou non les deux derniers siècles à l'ère de la communication, on sera d'accord. Et nous ne manquerons pas de guide pour notre enquête, depuis Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de la l'ère de la reproductibilité mécanique, mais il y a plusieurs traductions du même texte, d'ailleurs publié pour la première fois en France, en 1936, de Walter Benjamin jusqu'au médiologue d'aujourd'hui. L'analyse des facteurs économiques et sociaux mettra, elle, en avant un certain état de la conjoncture économique et sur un axe prospérité-crise, question d'actualité ces heures-ci, donc la conjoncture économique, de la politique économique, sur un axe là marché-intervention, où se situe-t-on, en le croisant avec la prise en considération, qui évidemment est plus délicate, je suis d'accord, des rapports de force entre culture ici dominante et dominée, là savante et vernaculaire, ou là enfin ascendante et déclinante. Un duo qui me paraît intéressant aussi. Bien entendu, c'est là que se situera l'analyse du rôle joué par les stratégies de rétribution matérielle ou symbolique, souvent la rétribution la plus importante sera symbolique, des commanditaires, des producteurs, on les appelle éditeurs ou producteurs, etc., et autres mécènes, on pense à quantité de travaux depuis Haskell, Christophe Pomian, etc. Comme des intellectuels, coucou, les voilà, comme des intellectuels, qu'on étudiera toujours mieux au reste, sous l'angle d'emblée collectif des intelligentsias. Voici pour les facteurs économiques et sociaux. Les facteurs politiques intégreront de même la nature et les méthodes du régime établi. Et sur ce dernier point, l'étude, qui est très tentante, je le sais, qui est déjà bien avancée, des censures, à laquelle on songe spontanément, beaucoup d'étudiants se précipitent dans ce genre de travaux en ce moment, cette étude devra toujours être pondérée par celle du versant positif, je mets des guillemets positifs, mais du versant positif des propagandes. Et généralement, vous n'éclairez un travail dit de censure que par l'analyse de la propagande induite ou tout à fait explicite, du travail de moralisation qui est à l'œuvre, et de façon généralement plus subtile, même chose que la censure, qu'on ne le croit communément dans une perspective, je dirais, libertaire de cette histoire du facteur politique. Et pour ensuite mettre à plat les politiques culturelles, là nous sommes dans un domaine mieux balisé, dont on rappellera cependant qu'elles ne se limitent aucunement au pouvoir d'État. Nous sommes dans un vieux pays d'État, mais il est évident que l'histoire des politiques culturelles, c'est une histoire aussi de la politique culturelle des collectivités locales, des associations, et aussi des particuliers, entre autres, des mécènes qu'on retrouve là, sous l'angle des stratégies culturelles. On y retrouve aussi, d'ailleurs, l'engagement des professions culturelles. Et c'est ici l'autre angle d'approche des intellectuels, qu'on a défini ailleurs comme des producteurs du culturel mis en situation de producteurs d'idéologie. Parce que là aussi, je me suis permis ailleurs de proposer une définition au mot intellectuel, puisque c'est une sorte de mistigrie qu'on se passe intellectuel. Bon. Moi, j'avance que ce sont des producteurs du culturel qui se sont fait reconnaître par la société comme producteurs de culturel, mais qui font le pas de côté, qui les fait changer de nature, ils passent d'une certaine façon de la profession à la vocation et ils deviennent des producteurs d'idéologie. Ils interviennent sur le champ du politique au sens le plus grec du terme. Alors tout ce qui précède n'exclut évidemment pas l'existence d'une interaction proprement culturelle. Je pense par exemple aux thèses de Panofsky, qui nous dit très simplement, et d'ailleurs c'est à mon avis assez compliqué quand on regarde ça de près, que pour comprendre une cathédrale gothique, il faut d'abord lire saint Thomas d'Aquin. Vous connaissez la thèse de Panofsky. Si vous entrez dans une cathédrale gothique sans avoir, j'allais dire, lu la somme de saint Thomas d'Aquin, vous passez à côté. Alors, c'est un peu accablant, mais ça se défend. Ça se défend. On voit très bien le cheminement. Et je dirais qu'il faut quand même avoir le courage d'affronter ce genre d'hypothèse. D'autant plus qu'on n'en est plus à Notre-Dame de Paris, quelle que soit la version, que ce soit celle de Victor Hugo, de Robert Hossein, etc. Bon, c'est plus on est quand même plus près de Panofsky quand même que de Robert Hossein devant le problème. Je vous conseille quand même plutôt de lire Panofsky, malgré tout. Mais Robert Hossein, c'est très intéressant pour l'histoire culturelle de Paris. Bien. Donc, interaction proprement culturelle, ni la possibilité, bien sûr, d'objets qui combinent par nature les trois modes, les différents facteurs. Et la génération, par exemple, cet objet aussi un peu un mistigris qu'on se passe facilement de chercheur à chercheur, la génération, qu'est-ce que vous en faites ? Il y a des générations, ça fonctionne, c'est une prison, c'est une grille de lecture, je sais pas. La génération, je crois qu'elle peut hypothétiquement servir. Ça peut être une intéressante hypothèse de travail pour l'analyse d'un certain nombre de groupes et d'individus. À condition qu'on se rappelle que la génération, là je ne fais pas un cours sur la génération, mais fonctionne autour... Premièrement, d'événements cristallisateurs, donc il faut les repérer. Lesquels ? Quels contours ont-ils ? Deuxièmement, autour de valeurs partagées, qui ont évidemment un rapport avec ces événements cristallisateurs. Et enfin, avec des figures fonctionnelles, type, qui vont du maître au disciple, sans oublier l'ancêtre. Chaque génération, à mon avis, s'inventant des ancêtres. Il y a un marché aux ancêtres dans lequel on puise génération en génération. On attend cependant plus communément l'historien du culturel sur le terrain des pratiques. Deuxième type d'approche. À condition, là aussi, de sérier celles qui, d'une part, seraient structurées par la société culturelle, de celles qui le seraient par ce que j'appellerais la sensibilité culturelle, rattachable respectivement à la sphère du public, la société culturelle, et à la sphère du privé, la sensibilité culturelle. Les premières sont à replacer dans une sorte de circuit de la représentation dont la dynamique sociale correspond à la trifonctionnalité classique de la production, de la médiation et de la réception. À condition de ne pas réduire la production une fois de plus, aux seuls créateurs artistiques, mais d'y faire toute leur place aux interprètes artistiques ou aux créateurs intellectuels, à condition aussi de ne pas limiter la médiation à l'éducation et à l'information, ce qui vient spontanément à l'esprit, mais d'y ajouter au moins un troisième terme que je propose d'appeler la diffusion culturelle, par exemple la lecture publique, les musées, etc. Un conservateur de musée, on ne peut pas le classer dans l'information tout à fait, ni dans l'éducation. Il faut bien créer une troisième catégorie. Et un bibliothécaire n'est pas tout à fait un enseignant ni un journaliste, c'est clair. Et à condition enfin de rappeler dans ce schéma d'entrée fonctionnel, production, médiation, réception, après Roger Chartier en particulier, que la réception n'est pas un stade passif, mais le lieu et le lien d'un usage, les usages de l'imprimé, Roger Chartier, etc. Donc d'une recréation, et ainsi de suite. La sensibilité culturelle interrogera, elle, les pratiques de la culture vécue, entre guillemets, distinguée pour la facilité de la démonstration de celle de la culture régie. En d'autres termes, on sera ici au cœur du travail de représentation à l'œuvre dans le quotidien. Ce travail est à mon sens perceptible, donc étudiable, au travers de trois grands modes qui sont autant de modes d'appropriation humaine de l'environnement. Premièrement, les usages sociaux du corps. Deuxièmement, ceux usages sociaux de l'espace domestique. Troisièmement, les activités ludiques. Les premiers usages sociaux du corps s'étendent depuis les profondeurs supposées, en tous les cas, des comportements démographiques culturalisés depuis pour le moins Philippe Ariès. Parce qu'il y a une démographie et puis il y a une façon culturaliste de voir la démographie, exemple Ariès, jusqu'à ce que, à l'autre extrémité de cette première catégorie, donc usages sociaux du corps, ce que Goffman a dénommé jadis la mise en scène de la vie quotidienne, en passant par les soins du corps, tels que les envisage un Georges Vigarello, l'alimentation, ou encore le vêtement, tel que l'ont analysé un Jean-Louis Flandrin, un Daniel Roche, etc. On dispose, à dire le vrai, de moins d'études historiques ambitieuses sur l'espace domestique, à mon sens, qui va de l'habitat jusqu'aux fameuses arts ménagers, chères à l'entre-deux-guerres. Même si la littérature technique, je suis d'accord, sociologique, je suis d'accord, anthropologique, toujours d'accord, y a poussé des reconnaissances éclairantes, éclaireuses, mais on retrouve l'historien déjà beaucoup plus présent sur le terrain des activités ludiques, peut-être pour des raisons strictement hédonistes, qu'il s'agisse des jeux, des sports, Pierre Arnaud, Christian Pociello, etc., du tourisme, Catherine Berthaud l'avenir, ou de la fascinante et dangereuse épistémologiquement parlant, la fête, explorée à la lumière du travail pionnier, bien sûr, de Mona Ozouf. Ici aussi, il va sans dire, donc, je le dis, il va sans dire qu'il y a nécessairement interaction entre société culturelle et sensibilité culturelle, sous la forme, par exemple, de l'incessant travail de codification des pratiques sensibles par la culture savante. Et cette codification des pratiques sensibles par la culture savante, je pense que la culture savante est faite exprès pour cet office. On pourrait s'arrêter là et ne pas oser avouer qu'on fait de l'histoire culturelle pour parvenir un jour, après l'hydrographie des structures, à l'océanographie des imaginaires sociaux. Bon, les imaginaires sociaux, heureusement. Assumons l'ambition, puisqu'elle est la clé de voûte de l'ensemble de ce dispositif. Même si la tâche est encore rude, l'exploration encore à peine ébauchée, ou plutôt bricolée, il est bien certain que l'objectif final est l'approche de ces imaginaires, par leur imagerie, d'abord, par les systèmes qui prétendent leur donner sens, ensuite. En abordant les sensibilités olfactives, le miasme et la jonquille, les sensibilités olfactives, puis sonores sur les cloches du XIXe siècle, Alain Corbin a ouvert la voie aux prochains essais qu'on appelle de nos voeux, qu'on espère, de reconstitution et d'interprétation de ce que j'appellerais l'imagerie physique, la nature, entre guillemets, les sens, oui, olfactifs, sonores, etc., l'imagerie du corps, l'imagerie des âges de la vie, etc. Plus nombreuses sont déjà les tentatives, généralement réussies, je pense au lieu de mémoire dirigé par Pierre Nora, touchant à l'imagerie ethnique, image de soi, image de l'autre, etc. On pointe ici au passage le développement récent de recherches sur la troisième imagerie, à mon sens, l'imagerie éthique, où on doit mettre, parmi d'autres, je pense aux travaux d'Antoine de Beck, par exemple, sur le XVIIIe siècle, les premières enquêtes d'un Dominique Califa ou d'une Anne-Claude Ambroise Rendu sur le fait divers. Le fait divers, non pas comme événement social, ce qui serait une façon un peu naïve de voir les choses, anecdoticienne, mais comme fait de discours. Parce qu'il ne vous aura pas échappé, bien entendu, que le fait divers n'existe que dans le discours. Bon, le fait divers, c'est un objet de discours. C'est un objet de journalisme au sens large. Outil de pénétration, mais outil de pénétration aigu. Dans le vif, mais dans le vif, non pas d'une société, d'une fantasmagorie collective. Il est pour finir à la fois plus aisé de se retrouver dans le domaine de l'approche par les systèmes, si l'on veut bien se donner la peine d'y séparer deux types de reconstruction mentale, parfois confondues, la mythologie, qui est de l'ordre de l'émotion, et dont la structuration est faiblement, voire aucunement explicite, et l'idéologie, qui est de l'ordre du concept, et se présente par fonction comme explicitement structurée, mais par fonction. Derrière ces deux catégories intimidantes, je le reconnais, il est facile de poser des recherches pionnières en leur temps. Celle, par exemple, mythologie, à partir des hypothèses de Lucien Febvre, d'un Jean Delumeau, partant il y a plus de 30 ans, il fallait du courage, dans l'entreprise, vraiment à l'époque ébouriffante, d'une histoire de la peur. Faire une histoire de la peur il y a une trentaine d'années, chapeau. Celle d'un Norbert Elias ou d'un Francis Haskell, déjà cité, posant en leur temps, avec un vocabulaire peut-être en partie obsolète aujourd'hui, ayant le courage aussi de le dire, qui l'histoire de ce que j'appellerais l'idéologie esthétique, autrement dit l'histoire du goût, je pense à Haskell, qui, donc Elias, l'histoire de l'idéologie éthique, ou le savoir-vivre de la civilisation des mœurs, rejoint aussi bien la casuistique que, au fond, la publicité, dont on n'a pas, en effet, peut-être assez saisi à quel point elle joue son va-tout moins sur l'esthétique, qu'elle instrumentalise, d'accord, que sur l'éthique, dont elle s'acharne, généralement avec succès, je parle de la publicité toujours, à suivre, ou plus rarement à anticiper, les évolutions. Bien entendu, toutes ces recherches peuvent s'opérer sous forme dialectique, par l'entremise de l'étude des relations entre systèmes, qu'il s'agisse de relations temporelles, histoire de la mémoire, à partir du grand Eloïs Riegel, des modes, des nostalgias, modes rétro, etc., toutes sortes. Ou de relations spatiales, et on plaide ici pour la systématisation d'une histoire des acculturations en terre contemporaine, entre culture dominante et culture dominée, déjà citée, culture autochtone et immigrée. Les histoires de l'orientalisme, de l'anglophilie ou de l'américanisation sont à l'agenda de cette enquête, étant bien entendu qu'au contraire des cultural studies, au contraire des cultural studies, de la mauvaise conscience américaine, il n'est pas question ici d'accorder un primat moral quelconque à la recherche sur le dominé au seul motif qu'il l'a été. Conclusion. Arrivé à ce point, j'ai bien conscience que les voix, selon les cas dubitatives, sceptiques ou ironiques, mentionnées en commençant, pourraient hausser le ton et reprendre en cœur la dernière grande critique délégitimante. Nous vous concédons que votre propos n'est pas aussi flou qu'il nous paraissait au départ, vous êtes bien gentil, mais reconnaissez qu'à l'arrivée, le n'importe quoi a fait place au presque tout. Bon. Alors, je réponds. À cette accusation de panculturalisme, voire d'impérialisme, j'ai déjà entendu ça, il est possible d'apporter tout à la fois une élémentaire réponse interne, préjudicielle, mais aussi et surtout une série de petites réponses externes, de nature à mon sens plus proprement académique. La première n'est au reste que le rappel de ce qui devrait être une évidence pour tout chercheur en sciences dites humaines. Elle pourrait se résumer en une formule simple, tout dans l'objet étudié n'est pas culturel, dans l'exacte mesure où rien n'y échappe complètement. Une discipline scientifique n'est jamais qu'un certain regard, je suis désolé de rappeler cette trivialité, porté sur un univers postulé non pas comme neutre, ça ce serait le regard de Dieu, de l'absolu, mais comme ambigu, ça c'est celui du relatif. Le stylo ou l'ordinateur que je peux manipuler est en soi un objet économique, résultat d'un certain processus de production, mais l'étude de marché qui a précédé, tout comme la stratégie commerciale qui aura défini son esthétique ou sa campagne publicitaire, ressortissent à une analyse culturelle. Je suis désolé. La réponse externe sera nécessairement plus complexe en ce qu'elle visera à préciser les places respectives des autres regards, disciplines voisines aussi bien que spécialisations historiques. Et c'est là qu'on doit avoir le courage d'affirmer qu'au sein de l'activité historienne, il n'existe que trois types de perspectives. L'économique, primordiale, en ce qu'elle considère l'humanité sous l'angle de sa survie, la politique, qui la considère sous celui de son gouvernement, et la culturelle, qui la considère sous celui de ses représentations. Les autres histoires, quand elles ne sont pas parties de l'histoire culturelle, comme l'histoire intellectuelle ou l'histoire religieuse, peuvent être définies comme des approches transversales qui construisent un plan d'analyse séquent au sein duquel il est facile d'individualiser ensuite l'une des trois perspectives précitées. Par exemple, l'histoire des relations internationales a longtemps été l'histoire des relations politiques internationales. Et elle a peu à peu découvert qu'il y avait des relations économiques ou culturelles internationales. L'histoire sociale, en son sens classique, si j'ose dire, un jeu de mots, a mis du temps à sortir du face-à-face travail-militantisme, traduction locale du face-à-face économique-politique, pour intégrer ensuite sa dimension anthropologique. Vous étudiez une commune de la banlieue parisienne, ce n'est plus seulement aujourd'hui mettre en ordre des stratégies d'entreprise, de parti ou de pouvoir public, il s'agit désormais d'intégrer à l'analyse le fonctionnement des structures familiales ou communautaires, l'usage du symbolique, la fonction de l'imaginaire, etc. À ce compte, dira-t-on encore, quelle place reste-t-il à la spécificité d'une démarche historienne ? N'est-on pas autorisé à conclure que l'histoire culturelle ne serait plus rien d'autre qu'une sociologie culturelle rétrospective, une ethnologie des sociétés révolues ? Ce serait faire peu de cas des différences de méthode et d'abord d'enquête inhérentes à chaque science. Toujours menacé d'être rejeté à la marge de la scientificité par le radicalisme épistémologique affiché par les autres sciences de la société, je le reconnais, jusque y compris les psychologies sociales et les autres sociolexicologies, l'historien du culturel peut bien au contraire prétendre à une position stratégique par la double puissance tribunicienne, au sens latin du terme, que lui confèrent les deux qualités intrinsèques, à mon sens, des objets historiques. La première qualité suscitant une lecture pluraliste, la seconde une lecture diachronique, comme deux rappels à l'ordre, mais à l'ordre d'un certain désordre établi. Le pluralisme se déduit de la reconnaissance de la polysémie des dix objets et du constat des contradictions internes, voire intimes, des sujets, à rebours des conceptions réductrices du tout social ou du tout psychologique. L'humain, individuel ou collectif, est susceptible d'une infinité d'interprétations croisées, et en particulier tout à fait capable d'être traversé dans le même temps par des aspirations différentes, voire opposées. Et le lieu de ce croisement, c'est peut-être ça aussi le culturel. La perspective diachronique oblige, quant à elle, à prendre en considération la conjoncture, qu'elle soit spatiale ou temporelle, l'ère A-I-R-E ou l'ère E accent grave R-E. Bref, ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette discipline que de se voir parfois reprocher un relativisme absolu, à supposer que les deux termes ne soient pas incompatibles, alors qu'à l'instar de l'enfant du roi nu, je crois que c'est d'Andersen, c'est ça, elle est surtout là pour nous rappeler que la flèche de Zénon, d'Élée, finit toujours, que notre esprit analytique le veuille ou non, à arriver, sinon à son but, parce que là nous serions des dieux, du moins parce que nous sommes des hommes quelque part.
Merci Pascal Horry. Alors je vous rappelle que si vous voulez faire ce voyage du n'importe quoi ou presque tout, il existe une association pour le développement de l'histoire culturelle, mais pour l'instant nous n'allons pas recevoir vos adhésions, mais simplement vos questions. Voilà, qui souhaite entamer ? Je vous en prie, le micro s'il vous plaît. Ouais, pour poser votre question madame, Je vais la répéter. Allez-y, madame, allez-y.
C'est un seul exemple parmi d'autres, mais disons que, ou bien on entend ce que vous dites comme une suite d'anecdotes qui ne vont pas au-delà d'une information coupée et qu'on ne sait pas exactement à quoi rattacher, sinon intuitivement, de temps en temps, mais disons que l'ensemble qui ne cesse pas d'être intéressant pendant qu'on l'entend. On ne sait pas qu'en faire. Enfin, moi, je ne sais pas qu'en faire. alors que j'aimerais bien pouvoir en faire quelque chose. Est-ce que vous pourriez indiquer la structure de l'information, non pas en revenant sur la totalité de ce que vous avez dit, mais en disant par exemple une vingtaine de points essentiels dans une continuité de votre parole, très très schématiquement, et puis qu'on puisse, disons, voir à quoi, à quel de ces points on peut rattacher les anecdotes successives qu'on a entendues. Parce que j'aimerais faire quelque chose de ce que vous avez dit.
Moi aussi, d'ailleurs. Je pourrais répondre lâchement comme Max Weber, qui un jour avait dit qu'on ne devait pas confondre la fonction du poteau indicateur avec celle de celui qui faisait le chemin. Donc je suis lâchement comme Max Weber un poteau indicateur. Et le poteau indicateur ne fait pas le chemin. Mais bon, pour le reste, prenons le cas de l'histoire de la peur, à titre d'exemple. Ce n'est évidemment pas une anecdote, c'était simplement le rappel qu'à un moment décisif, il y a une trentaine d'années, où l'historiographie, Jean Delumeau est un historien qui se situe à la frontière du Moyen-Âge et des temps dits modernes, donc de la Renaissance, où l'historiographie du religieux, pour aller vite, puisque au départ Jean Delumeau avait travaillé sur l'espace religieux et un peu sur l'espace économique aussi, n'osait pas franchir ce type de pas. Il avait eu le courage de dire « on peut faire, et je vais faire, une histoire de la peur ». Alors que c'était évidemment le type même de projet qui était délégitimé par son caractère trop ambitieux ou surtout trop flou. On pouvait toujours objecter à Jean Delumeau qu'il n'y avait pas de documents ou qu'il y en avait trop, que c'était plaquer un concept anachronique sur une réalité qui ne pouvait pas recevoir le nom de peur. Or, bon, là je ne peux évidemment vous dire autre chose que de lire l'histoire de la peur en Occident de Delumeau ou quelques autres ouvrages dans cette ligne-là. Il me semble qu'il a été tout à fait convaincant, c'est-à-dire qu'en sélectionnant, comme le fera plus tard Alain Corbin, bon, Delumeau a ouvert la voie à quelqu'un comme Alain Corbin pour le XIXe siècle, en sélectionnant, c'est vrai, un certain nombre de sites, aussi bien géographiques que documentaires, en considérant qu'il y avait des documents de première importance, bon, c'est devenu trivial, mais à l'époque où il l'a fait, c'était pas si évident, les danses macabres, bon, il allait de soi, qu'étudier les danses macabres, c'était absolument capital pour entrer dans l'imaginaire, je vous rappelle que c'était dans mon paragraphe sur les imaginaires sociaux, l'imaginaire social, je préfère social que collectif à ce moment-là, des occidentaux chrétiens du 15e et du 16e. Bon, mais bien sûr, Delumeau ne s'est pas contenté de travailler sur les danses macabres, ce qui était déjà intéressant puisqu'il travaillait sur l'image. Il a travaillé sur des textes de théologiens qu'on n'était jamais allé questionner avant lui pour ça, bien entendu. On les questionnait pas, premièrement. Quand on les questionnait plus depuis plusieurs générations, puisque la vogue était à l'histoire économique traditionnelle, par exemple, ou à l'histoire politique traditionnelle. Donc on les ouvrait plus. Et si, par miracle, c'est le cas de le dire, on les ouvrait, c'était parce qu'on était soi-même théologien. Bon. Donc, reprendre ces textes de théologiens ou de mystiques, mais avec un projet qui était de voir si la peur peut se repérer, se documenter, ça, c'était à la fois très audacieux de la part de Delumeau, et à mon avis, ça a été convaincant, parce que quand on lit son livre, il est évident que, brutalement, il a ouvert des fenêtres considérables sur un type d'histoire qui ne se faisait pas. C'est pour ça, mais ce que je dis est assez banal, c'est pour ça que, de toutes les façons, c'est une fois de plus une question de regard. Parce que vers 1900, vous le savez, un certain nombre d'historiens, peut-être pas tous, loin de là, mais enfin, la génération dite d'ailleurs faussement positiviste, en est arrivée à la conclusion qu'une fois qu'on aurait réuni tous les documents sur Philippe III le Hardi, on saurait tout de Philippe III le Hardi. Évidemment, on est revenu de cette naïveté, qui était déjà un progrès par rapport à une histoire ancienne où on ne se préoccupait pas de l'exactitude et de l'exhaustivité supposée d'ailleurs des documents. Mais il est évident que vous pouvez reprendre les mêmes documents incessamment et leur faire extraire bien autre chose, presser le citron autrement. Et c'est vrai que bon, l'exemple que j'ai donné de l'histoire de la peur, c'était à un moment de mon argumentation qui concernait
l'approfondissement des imaginaires sociaux, et en particulier de ce que j'appelais les mythologies. Et là, j'essayais de montrer que le symétrique entre mythologie et idéologie, qui est un vaste problème, mais qui est un des projets de l'histoire culturelle, et en particulier l'analyse des mythologies, parce que ça se trouve, même de façon un petit peu triviale, faire l'histoire des mythologies contemporaines, ça se fondait sur des projets anciens très sérieux, portant sur des périodes plus anciennes que celles sur lesquelles personnellement je travaille ou des collègues travaillent. Et il y a une trentaine d'années, un historien de la Renaissance et du XVe siècle finissant avait eu l'audace de le faire, et à mon avis de façon excellente. Donc c'était, par exemple, puisque je ne peux pas m'étendre sur les 20 points que vous voudriez me voir résumer, c'était l'explication pour laquelle j'ai à ce moment-là parlé de Delumeau. Mais bien sûr, on peut reprendre les différents exemples que j'ai cités plus en détail. J'ajoute qu'à mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de voir la version écrite du document, c'est-à-dire de la conférence.
Est-ce qu'on m'entend, oui. Vous aviez accepté de dire, monsieur, que vous étiez la génération de 68. Oui. On y soit qui mal y pense. Hein. C'est pas de polémique. Alors, les Américains, actuellement, quand on lit leur magazine, leurs journaux, leurs revues, ils nous disent « génération qui est la plus réactionnaire depuis Napoléon en France ». Bon, alors, indice, je vais poser la question. Et la violence française, très spécifique dans les villes, dans les banlieues, c'est une expression de l'angoisse. Où est la culturelle là-dedans? Je sais bien qu'il y a Artaud, qu'il y a Van Gogh, etc. Alors, je voudrais peut-être que vous pourriez préciser le culturel dans la folie, l'angoisse et ces structures-là, n'est-ce pas?
Bon, je ne reviendrai pas sur la génération la plus réactionnaire depuis Napoléon, vaste problème. Mais en ce qui concerne la lecture culturelle qu'on peut faire, par exemple, des actes de violence, alors là, je vais continuer avec des références bibliographiques. Je suis tout à fait fasciné par le travail qui a été fait sur les guerres de religion par Denis Crouzet. Denis Crouzet est un historien spécialiste du XVIe siècle, qui lui aussi a eu l'audace, donc une génération après Delumeau, d'interroger au plus fort la violence des guerres de religion. Mais on pourrait dire la violence des banlieues, la violence du Kosovo, etc. Mais là, c'est les guerres de religion du XVIe siècle. Et en allant très très loin dans l'analyse symbolique de la violence, en montrant que dans la violence, je résume maladroitement ce qu'il dit mieux que moi, mais que, bien entendu, il y a du vital, alors qu'est-ce que c'est que le vital d'ailleurs, il y a du physique, tout ça. Bon, il y a l'instinct de survie, bon. Mais il y a aussi une mise en scène de la violence, par exemple, y compris de l'assassinat. Je veux dire, on n'assassine pas n'importe comment à n'importe quelle époque, voilà, c'est tout, et tout est comme ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire, il faudra peut-être un peu de recul, comme on dit souvent, mais enfin, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'attendre 4 siècles, là, mais on peut faire, et des ethnologues, des anthropologues, des sociologues aussi, ont évoqué une lecture anthropologique, symbolique et pourquoi pas culturelle des violences de banlieue. Mais là, je parle de la violence au sens strict parce que si on élargit à la culture dite urbaine, enfin, j'aime pas beaucoup le mot, de même que j'aime pas musique actuelle, mais la culture urbaine dont on nous parle tellement, surtout les pouvoirs publics ces temps-ci, depuis quelques années, bon, ben, il est certain qu'il y a des formes d'expression, en effet, culturelles, spécifiques à des groupes sociaux qui, par ailleurs, sont souvent des groupes sociaux déviants. Et c'est tout à fait intéressant. Bon, ben, je ne suis pas le premier à le dire, mais une des formes contemporaines de poésie s'appelle le hip-hop. C'est tout à fait évident. Faut pas, etc., etc. Donc, je veux dire, à la limite, quand vous êtes un peu fonctionnaliste, que vous dites quel est le statut de la poésie, alors on ne va pas entrer dans le débat de savoir ce que c'est que la poésie, Poyeine fait, etc., mais il est évident qu'il faut que tout de suite, vous ne pensiez pas simplement revue de poètes de chefs de canton, quoique, bon, il puisse y avoir d'excellentes revues de poètes de chefs de canton, mais vous pensez aussi à chansons et vous pensez à hip-hop, par exemple. À partir de ce moment-là, on peut discuter du statut de la poésie dans l'époque contemporaine, et tout est comme ça.
Bonsoir. Le terme culture paraît difficile à définir avec une grande précision. En effet, on ne lui accorde pas le même fond ou la même forme selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre de civilisation différente. La culture semble intimement liée à la civilisation d'une sphère géographique. Si le chant, la danse, le sport ou même la couture font partie du champ culturel occidental, dans certains pays, on les récuse et on les considère simplement comme des loisirs. Pour eux, la culture réside essentiellement dans le savoir et l'éducation, voire la morale sociale. Il n'y a donc pas une délimitation universelle de la culture applicable à l'échelle du monde. Chacun y va de sa propre définition. Je souhaite connaître celle du spécialiste que vous êtes. Je vous en remercie.
J'avais l'impression d'avoir proposé une définition de la culture en commençant, donc je ne vais pas répéter ce que j'avais dit. D'ailleurs, je le répéterai plus mal. Mais je retiens de votre intervention qu'évidemment, bon, pour moi, ça allait de soi, puisque ce n'était pas vraiment l'objet de cette intervention de ce soir, mais il faudrait superposer à tout ce que je dis une grille, moi, que je me permette d'appeler ethnique, hein, mais je sais que ça pose un vaste problème. National, pour moi, est déjà un peu restreint, parce que... Bon, national, c'est pour aller vite, national, c'est forcément daté, c'est forcément moderne. Pour aller, là aussi, je vais me faire lyncher, mais pour moi, le national, c'est profondément politique. C'est une politisation de l'ethnie au sens culturel du terme. Voilà. Si vous voulez une définition, ma propre définition de la nation, ce serait ça. Donc effectivement, c'est lié à l'entrée dans un certain système politique qu'on peut appeler, pour aller vite, la démocratie. Enfin, bon, pour aller vite. Donc en effet, avant la nation, il fallait bien qu'il y ait autre chose, appelons ça l'ethnie. C'est-à-dire un vaste problème qui est tout à fait d'actualité quand on voit ce qui se passe en Corse ou dans ma Bretagne natale cette nuit. Donc où commence l'ethnie, où s'arrête la nation, etc. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'une partie de ce que j'ai dit fonctionne mieux pour, alors quoi, pour la France certainement, je dirais l'Occident, parce qu'il faut quand même admettre des processus d'internationalisation, pour ne pas parler de mondialisation culturelle, qui font que ce qu'on peut dire sur l'Occident vaut pour une large partie du monde à une époque proche. Plus on va remonter dans le temps, plus effectivement ces réponses vont varier. Je suis tout à fait d'accord, suivant l'ère culturelle. Je n'ai pas quand même complètement jeté le bébé avec l'eau du bain et je subodore qu'il y a quand même des invariants, qu'il y a des points communs et il faudrait en parler longuement évidemment. Il est clair que pour se limiter de façon très simple à des formes d'expression, pour ne pas dire artistiques, il y en a certaines qui semblent à peu près absentes de certaines civilisations et à certaines époques. On peut même se poser la question du théâtre, par exemple, pour certaines civilisations. Vous avez cité la danse, il faudrait peut-être voir. Il n'en reste pas moins que vraisemblablement, il y a des substituts aussi. Donc, il y a des cas limites où on peut se dire, tiens, il y a des civilisations qui fonctionnent pendant des siècles sans cet attribut dont une autre se considère comme, évidemment, détentrice de toute éternité. En même temps, il est possible qu'il y ait aussi des substituts. Donc, je ne désespère pas qu'il y ait quand même des invariants. Mais, je suis bien d'accord, une partie de ce que j'ai pu dire vaut, c'était implicite, pour un fonctionnement occidental. J'ai quand même pris des exemples qui remontaient volontairement au moins jusqu'au XVe siècle pour montrer que c'était un Occident qui poussait ses racines assez loin. Et puis, vous savez, plus on avance, bon, je ne suis pas très compétent sur des aires culturelles très exotiques, mais plus on avance dans l'enquête historienne sur un certain nombre de cultures très éloignées en apparence des nôtres, plus on se rend compte quand même qu'il y a des points communs. Enfin, le vocabulaire étant très différent, les valeurs étant souvent très différentes, mais les fonctions sont souvent les mêmes. Prenez par exemple le cas de l'intellectuel, bon, qui m'a énormément préoccupé. On laisse de côté la gêne que peut apporter le nom, mais est-ce que la fonction de l'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un, je le répète, qui d'après moi a une légitimité culturelle, mais qui la met sur la table en disant « au nom de cette légitimité culturelle, j'interviens dans le débat de la cité », est-ce que ce n'est pas une figure qu'on trouve presque partout, peut-être à toutes les époques ? C'est la question que je pose. Mais à ce moment-là, il a d'autres noms. Là où effectivement on pourrait dire que je vais trop loin, c'est qu'il y a un moment où tout ça s'englobe dans le religieux. Mais j'ai dit en commençant qu'une partie de l'hypothèse était qu'il y avait un substitut du religieux. Et je me suis permis de dire que ce n'est pas parce que maintenant tout le monde est en train de dire que le culturel se substitue au cultuel que c'est faux. C'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est faux. De même qu'on a souvent dit, c'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas des ennemis. Bon.
Voilà. Bonsoir monsieur. Vous avez dit une chose que j'aimerais bien vous entendre approfondir. Vous aviez dit que l'innovation pénétrait lentement dans la société. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on voit un peu la place qui est prise par Internet, alors ce n'est pas si vieux que ça. J'ai m'en tiré avec un sophisme. Admettons que ce soit lentement que l'innovation pénètre la société. Moi, je vous dirais, oui, alors dans ce cas-là, on n'arrive plus à s'en passer très vite.
Oui, alors j'essayais de retrouver exactement ma phrase parce que je ne crois pas avoir dit ça. J'ai dit que à certaines époques, cette circulation qui va de... j'avais fait une distinction volontairement un peu spécieuse, mais à laquelle je tiens un peu, entre la découverte plutôt de l'ordre du scientifique et l'invention plutôt de l'ordre du technique, donc le processus d'innovation au sens large, passer ensuite par des formes de circulation et se terminer par une popularisation. Et j'ai indiqué que ça pouvait prendre des siècles, mais ça pouvait prendre des siècles, et que grosso modo, là, je n'apprends rien à personne, nous sommes plutôt dans un processus d'accélération de l'histoire. Entre parenthèses, on pourrait tirer son chapeau à Daniel Halévy, qui, sauf erreur, était le premier à lancer la fameuse formule de l'accélération de l'histoire. C'est vrai que, au-delà de ce qu'il a dit à l'époque, on n'a peut-être pas fait mieux, parce que l'accélération de l'histoire, c'est vraiment une question centrale. Donc je suis bien d'accord avec vous pour dire que la vitesse de diffusion s'est accélérée. À deux réserves près. Premièrement, moi, je suis historien, donc je considère aussi d'autres diffusions qui ont été assez lentes, qui ont mis parfois une génération, deux générations, voire plusieurs siècles. Mais moi, je remonte. Alors, début 20e, 19e, 18e. Je ne suis pas uniquement dans la période actuelle. J'évoquais le cas de la TSF radio, parce que j'ai eu l'occasion de travailler assez précisément sur ça. Bon, pour simplifier, la mise au point technique de la TSF, téléphonie, télégraphie sans fil, c'est avant 14. L'affinement des processus, je parle sous le contrôle de gens plus compétents que moi peut-être, c'est 14-18, parce que comme d'habitude, la guerre accélérait. Et puis, l'entrée dans le champ social, mais dans certains pays seulement, c'est les années 20. Mais pour que la radio, qui n'est plus la TSF à ce moment-là, qui devient la radio, soit populaire, il faut encore attendre 20 ans. Et vous pouvez dire, quand vous regardez les statistiques des postes récepteurs, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que dans un pays comme la France, la radio est populaire vers 38. Il y a des critères, bon, le nombre de postes déclarés, là, et le résultat de tout ça, là, c'est la France. Hein. Le résultat de tout ça, c'est que la Seconde Guerre mondiale est la première, peut-être la dernière, en tous les cas, la première grande guerre radiophonique. D'où Munich. Vous imaginez que les soirs de Munich, la France, c'est quand même inimaginable, la France était à l'écoute de discours en allemand, les discours du chancelier Hitler, qu'un interprète traduisait en direct, parce qu'on se demandait si ce discours en allemand, qui était en direct, allait sortir la paix ou la guerre pour le lendemain matin. Bon, quelques semaines plus tard, vous avez Orson Welles et sa fameuse guerre des mondes, avec la panique qu'il a déclenchée, qui était évidemment liée à ça, qui était évidemment liée à la crise de Munich. Et puis après, vous avez Goebbels, Charles de Gaulle, Churchill, la radio est omniprésente. Bon. Ben, il est évident qu'on est arrivé à ça en un quart de siècle. Il a fallu quand même un quart de siècle. Alors que, je suis d'accord avec vous, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais la deuxième réserve que je fais, c'est que tout dépend de la région et de la catégorie sociale dont vous parlez. C'est plus ou moins vrai, suivant les pays, et les catégories sociales. Mais autrement, je ne dis que ce qu'on vient pas, que la diffusion de l'innovation est de plus en plus rapide aujourd'hui. Dans les élites, je n'ai pas prononcé le mot élite, je mets toujours des guillemets à ce mot, mais elles existent, c'est-à-dire qu'elles sont tout simplement positionnées comme élites. Alors dans les élites, je suis tout à fait d'accord. C'est déjà peut-être plus compliqué dans certaines catégories sociales. Laissez pour compte, quoi.
Moi ? Oui. Oui. C'est simplement par rapport à la définition que vous donnez de la culture. Vous parlez donc de représentation collective propre à une civilisation. Une société ou une civilisation ?
Ah, une société.
Ah, parce que dans mes notes, j'ai noté
alors,
civilisation, c'est pour
la
ça.
La langue m'a fourché.
Je ne sais pas. J'ai entendu civilisation, mais... Et donc, justement, d'accord. Et donc, justement, vous parlez de groupes ethniques, de groupes sociaux. Donc, c'était justement cette superposition, en fait, simplement sur laquelle je voulais revenir, d'une culture. En même temps, vous parlez de relativisme absolu. Et en même temps, on voit qu'il y a quand même une homogénéisation au niveau d'un territoire large, comme une société. Donc, simplement, si vous pouviez revenir sur cette articulation-là, s'il vous plaît.
Merci, parce que bon, je pense avoir dit société, mais enfin, bon, peut-être que... Bon, mais effectivement, voilà. Mais je suis content que vous m'ameniez à préciser, parce que c'était extrêmement résumé ce que je disais, bien sûr, que dans société, je mets quantité de types de groupes sociaux. On pourrait préciser, alors, on pense spontanément à des groupes définis en fonction de critères, disons, plutôt économiques, au sens très large du mot déjà. Mais c'est une des acceptions possibles. Les groupes sociaux, tout va dépendre de l'enquête du chercheur, d'une certaine façon, de ses hypothèses de travail ou des institutions qui auront posé le cadrage. Donc vous pouvez aborder la question par le biais d'une définition géographique, hein, une localisation géographique, une nation, effectivement, géographiquement définie. Mais ça pourra être une classe d'âge, ça pourra être ceux qui se reconnaissent dans une confession religieuse, dans une idéologie, dans un parti. Tout dépend du groupe social que vous avez fondé pour votre recherche, ou qui se sera auto-proclamé. Donc, derrière le mot société, effectivement, je tenais absolument à ce qu'on ne mit pas tout de suite société au sens national du terme. Parce que quand ce n'est pas précisé, on pense, ben oui, par exemple, il étudie la France, parce qu'il est français, ou l'Allemagne. Bon. Non, ça peut être une classe d'âge, ça peut être une génération, entre guillemets, si on réussit à se mettre d'accord sur les contours. Ça peut être les anciens élèves de telle école. C'est un... Et vous pouvez faire évidemment, l'étude de la culture des anciens élèves de. C'est un projet comme un autre. Parce qu'ils seront définis. Par exemple, Dieu sait si c'est tout à fait intéressant de repérer les valeurs, la symbolique de l'esprit de corps. Oui. Donc je suis bien d'accord, par société, j'entends quantité de formes d'agrégats sociaux, hein, pas simplement la société implicitement au sens national du terme. Et par ailleurs, alors, puisque vous dites, mais à quel niveau tout ça s'articule, je suis obligé de reconnaître, et d'ailleurs ça ne me gêne pas beaucoup, mais que tout n'est pas sur le même plan. Une fois que je vous ai dit ça, il y a des agrégations sociales qui me paraissent plus fortes que d'autres, pour, peut-être pas l'essentiel, mais en tous les cas, pour des éléments essentiels d'une culture. Je pense que l'agrégat national est capital au XIXe siècle et sans doute pour l'essentiel au XXe siècle. On peut penser d'ailleurs qu'il est en train de s'effriter sous nos yeux. Hypothèse. Pardon ? Vaste problème. Sans doute au profit de plus petits et de plus grands à la fois. Au profit du régional, ça dépend. Ça dépend. Alors là, vaste problème. Moi, j'habite dans une région qui a une très très faible identité régionale à l'heure actuelle. Donc, qui ne se vit pas sur ce mode-là. Donc, c'est pas automatique, si vous voulez, qu'il y ait un ancrage régional. Ou alors, sa région serait une super région Île-de-France, si vous voulez. Alors, pourquoi pas, après tout. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où on postule qu'il pourrait y avoir une identité corse forte, est-ce qu'il y a une identité francilienne forte ? Faut aller jusqu'au bout de la démonstration. Mais ça peut être en amont, ça peut être en aval. Donc je pense qu'il y a aussi des facteurs de dilution internationale de l'identité nationale. Mais ce qui me frappe, c'est évidemment à quel point la nation, pour simplifier, a été un groupe social extrêmement efficace sur le plan culturel. Je vous donne un dernier exemple. Une de mes étudiantes faisait un rapport hier après-midi sur son enquête portant sur les origines de l'école du Louvre. On ne voit pas le rapport entre ce que je viens de vous dire et l'école du Louvre. Si, c'est qu'on découvre que c'est elle-même une élève de l'école du Louvre. L'école du Louvre a ses origines, 1882-1914, elle est entièrement construite sur un réflexe patriotique, comme Sciences Po. Sciences Po a été créée en 71, sous le coup de la guerre de 70. Et pour simplifier, on crée l'école du Louvre, non sans mal, et puis bon, elle ne ressemble pas à ce qu'on voulait au départ, parce qu'on l'appelait l'école d'administration des musées au départ. C'était beaucoup plus audacieux que ça n'a été au bout du compte. Mais essentiellement parce qu'il y avait la provocation allemande. L'histoire de l'art étant une spécialité allemande, comme la philosophie et le caoutchouc, c'est absolument insupportable. Donc, il faut qu'il y ait l'école du Louvre. Donc, je veux dire, le critère patriotique est passionnant, parce qu'on le rencontre à tous les coins de rue. Entre 70 et 14, c'est obsessionnel. Ça, c'est très intéressant. Vous avez affaire, là, à une nation, je ne dis pas qu'il fonctionne bien, mais enfin, qui est drôlement bien intégrée, puisqu'elle accouche sans arrêt de production culturelle, essentiellement pour des déterminations patriotiques. On ne peut pas dire que ce soit le cas aujourd'hui, sincèrement. Voilà.
Bien. Merci, Pascal Horry. Merci à vous. Bonsoir.